Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Marisot la minimaliste. Donc, vous êtes dans le podcast et aujourd'hui, je reçois une invitée pour une entrevue express. C'est Élise Vigneault qui vit à Victoriaville et qui est, comme moi, organisatrice professionnelle. Donc, c'est notre métier vraiment qui est un métier officiel, les organisatrices professionnelles. Et elle a un peu la même vision que moi de ce métier-là. Donc, elle met de l'avant beaucoup plus le désencombrement et le mode de vie minimaliste. Donc, elle va nous raconter son parcours, comment elle s'est rendue à ce métier-là, parce qu'elle a démarré son entreprise tout récemment. Donc, j'ai bien hâte de vous la présenter et que vous nous appreniez à la connaître.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisot est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisot vont rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste.
Alors, bienvenue aujourd'hui à un des épisodes du podcast de Marisot la minimaliste. Aujourd'hui, on fait une entrevue express avec Élise Vigneault, qui est en Estrie et qui fait le même métier que moi. Alors, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle jase avec moi un peu de sa philosophie de ce métier-là et de voir un peu comment elle s'est rendue à ça. Donc, bonjour Élise, comment ça va?
Allô Marie-Sophie, merci de m'inviter, ça va super bien. Je suis vraiment contente, comme on jasait là, deux petites minutes avant, de pouvoir discuter enfin ensemble de nos philosophies puis notre métier qui nous passionne toutes les deux. Alors oui, ça va super bien ce matin.
Good! Mais oui, c'est ça exactement, on ne se connaît pas personnellement tant que ça, on se suit en fait sur Facebook puis les réseaux sociaux, mais on a vite vu qu'on avait à peu près la même approche, la même vision, on avait une personne en commun en fait, une cliente qui m'avait appelée puis finalement a pu faire affaire avec toi parce que tu étais beaucoup plus proche d'elle, donc ça faisait beaucoup plus de sens, puis j'étais bien contente dans le fond qu'il y ait une référence qui a la même vision parce que notre métier en fait il est tellement large, il y a tellement de possibilités de l'interpréter et de le faire, qu'il n'y a pas toujours les personnes qui ont la même philosophie que moi. Donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait d'autres personnes qui voient les choses un peu comme moi aussi, puis qu'on puisse justement s'entraider puis créer cette communauté un peu sur ce mode de vie-là. Donc, toi, comment t'es arrivée un peu dans tout ça et tout? Parce que toi, c'est assez récent, je pense, que t'es embarquée dans ce métier-là.
Oui, effectivement, c'est en janvier officiellement là, que j'ai lancé ma page Facebook et tout ça, mais ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête ce métier-là sans connaître le métier en fait. Pour faire une histoire peut-être vraiment plus large parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein d'éléments dans ma vie qui m'ont juste guidée vers ce métier-là alors que je ne savais pas qu'il existait. Dans le fond, moi, j'ai fait des études en métier d'art au cégep, en ébénisterie artisanale. J'avais vraiment envie de créer, mais dans du concret. Tu sais, moi, créer une toile avec des pinceaux, syndrome de la page blanche, là. Mais créer des objets utilitaires, ça me parlait plus. Mmh. Et puis, ensuite de ça, ben, j'avais envie de nourrir cette créativité-là encore à la fin de mes études. J'étais encore toute jeune, j'étais pas prête à me partir à un atelier d'ébénisterie avec des investissements de machinerie, tout ça. C'était pas ça. Alors là, j'ai continué mes études. Je suis allée en design de l'environnement à l'UQAM. Puis là, ben, environnement, c'est pas des arbres, c'est vraiment l'environnement humain. Fait qu'on a étudié l'humain. Fait que de voir l'impact de l'environnement sur l'humain, comment on peut vivre une expérience au travers d'un environnement. Fait que c'est vraiment au niveau de l'architecture, des objets, du design urbain. Fait que c'est là que ma fibre écologique est vraiment plus apparue parce que j'ai étudié un peu plus les habitudes de vie, de consommation, tout ça. Sauf que quand je suis sortie de l'université, bien que j'étais nominée pour une bourse d'excellence, mais j'étais brûlée. J'étais vraiment vidée. J'ai vraiment senti le besoin de prendre une pause, prendre du recul sur le parcours scolaire, qu'on est poussé, qu'il faut trouver une carrière et tout ça.
Oui, c'est quelque chose d'intense en effet, hein?
Quand on a 17 ans, je trouve que c'est, en tout cas personnellement, moi c'était très tôt pour décider ce que je voulais faire de ma vie. Je ne me connaissais pas encore assez bien. Alors, besoin d'une pause, je suis partie en voyage, puis mon cœur m'appelait au Mexique. Je ne sais pas trop pourquoi.
OK. Ben, des fois, c'est ça. On ne sait pas.
Oui, c'est ça. Fait qu'il faut écouter ces petites voix-là.
Ouais.
Fait que je suis partie avec mon sac à dos, mais à peu près 4 mots d'espagnol. Je suis blond frisé, puis blanche, puis j'ai dit, OK, go, j'affronte mes peurs, puis j'y vais. Fait que je me suis payé un 6 mois. Ben, payé. Je me suis offert un 6 mois sans responsabilité, sans autre chose à faire que de me demander ce que j'allais faire de ma journée.
Oui.
Et puis là, j'ai vraiment connecté avec la simplicité de ce peuple-là. Je me suis reconnue. En fait, j'ai découvert que ça existait de mettre de l'importance ailleurs que sur des objets. Oui. Ouais, de vivre dans des petits villages, tu sais, de ne pas avoir le choix de magasiner parce qu'il n'y a pas de magasin. Il y a une épicerie pour aller acheter tes tomates puis tes avocats. Puis c'est là, tu sais, pas de magasinage, pas de flafla, juste la simplicité pure. Ça, ça m'a énormément apaisée.
Mm-hmm. Donc, ça c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud aussi en 2010, 3 mois, pack-sac. Je fais Équateur, Pérou, Bolivie, puis j'ai vécu la même affaire. Tu sais, on était là dans l'Amérique du Nord avec la surabondance, c'est tout. Puis là, tu arrives là, puis justement, ta vie, c'est juste ton pack-sac. Puis tu sais, tes questionnements, c'est où est-ce que je vais coucher ce soir? Où est-ce que je vais trouver de la nourriture? Puis qu'est-ce que je fais de ma journée? Et quel fun, là, tu sais. Donc, en effet, on revient vraiment à la base de ce que devrait être la vie, là, tu sais, de juste comme triper, puis d'avoir du fun. Puis c'est ça, il n'y a plus les autres responsabilités. Puis en effet, l'Amérique du Sud aussi, c'est vraiment ça, là. C'est comme complètement un autre monde au niveau de la consommation. Puis tout ça, on est rendu comme à des années-lumière de ce qu'est l'Amérique du Nord. Donc, c'est vrai que c'est un vrai clash, là. Moi, je me souviens, j'étais revenue pendant le temps des fêtes. Puis là, j'étais comme complètement décalée. J'étais là, oh mon Dieu, la surabondance de Noël, tu sais, quand t'arrives. Puis là, j'arrivais de là-bas où on avait comme rien, puis on n'a même pas d'eau chaude. Puis là, tu fais, oh my God, qu'on est chanceux, puis on ne se rend même pas compte qu'on a tellement, justement, d'abondance, là. Donc, c'est vrai que c'est souvent des clashs comme ça qui, en fait, nous font réaliser des affaires.
Il y a d'autres options, tu sais, qu'il y a un canal qui existe, mais qu'on n'est pas obligé de l'emprunter. Puis cette simplicité-là permet aussi d'apprendre à se connaître, tu sais, parce que, en tout cas, moi, ça m'a amené beaucoup, ça m'a enlevé la pression sociale, tu sais. Je voyais des familles qui n'avaient rien, mais il y avait le grand sourire, mais il y avait du plaisir. Je me disais, OK, mais je ne suis pas obligée d'avoir une grosse maison, un gros char, tu sais.
Non, c'est ça. Le stéréotype de l'Amérique du Nord, c'est le American Dream, là, qu'on pense que c'est ça, l'Eldorado, là, puis que c'est ça qu'il faut atteindre.
Oui. Fait que ça a été vraiment mon premier contact avec la simplicité, là, je dirais. Puis j'ai connecté avec le yoga là-bas. J'ai commencé à faire du yoga. Puis j'ai dit, OK, ben moi, la pression, la performance que j'avais vécue à l'école, d'être la meilleure équipe, le meilleur projet. Puis tu sais, j'ai dit, OK, moi, genre, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Le yoga, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que tout de suite, je suis tombée en amour. J'ai fait ma formation. Je suis retournée au Mexique l'année d'après faire ma formation avec l'école que j'avais découvert là-bas. Wow. C'est vraiment devenu mon nouveau mode de vie, en fait, parce que le yoga, c'est un peu ça aussi, un mode de vie. Tu sais, on comprend, on étudie la philosophie du yoga, on observe ses habitudes, ses croyances. Fait que ça a été ça pendant 10 ans. Je me suis vraiment lancée dans l'enseignement du yoga. J'ai mis le design de côté pendant beaucoup d'années parce que j'avais pas l'occasion de patauger dans le milieu. Puis à un certain moment, j'étais comme pris dans un engrenage, là, mais bon, ça faisait longtemps que je donnais des cours de yoga. Et là, je commençais à pas m'emmerder, là, mais...
Non, mais c'était routinier.
C'est ça. Puis il y a eu une rupture amoureuse à un moment donné que, oups, j'ai parti, j'ai pris mon billet d'avion, j'étais allée 2 semaines parce que j'avais juste 2 semaines, puis rendu là-bas, je disais, hey, j'avais un rêve, moi, je voulais partager ma vie entre le Mexique puis le Québec. Puis là, ben j'étais plutôt au Québec depuis un petit bout parce que j'avais un bon studio de yoga où enseigner, tout ça. Ouais. Mais j'ai dit, OK, je mets les choses en place pour réaliser ce rêve-là. Je veux faire un crochet sur la checklist. Fait que j'ai commencé à partager mes étés au Québec puis mes hivers au Mexique.
Oh, wow!
Cette année, ça a été ça, mon mode de vie. Fait que là, les bagages... Tu sais, là, je partais pour 6 mois, fait que mon sac à dos, j'essayais de le faire petit, mais là, quand je revenais, puis je revenais dans mes choses, oh, Puis là, les déménagements, tu sais, des petits déménagements par-ci, par-là, à un moment donné, j'ai été tannée de déménager, tannée de faire des bagages aussi. Il y a un moment aussi où j'ai senti que j'avais besoin de m'enraciner.
Ouais.
M'enraciner, ça ne voulait pas dire m'ensevelir de choses. Ça voulait juste dire d'avoir un lieu à moi, ou en tout cas que là, je me déposais. Puis, donc, j'ai laissé un peu le projet du Mexique. De partage de vie, parce que là, je voyais que ça ne me convenait plus. C'est ça aussi, de pouvoir s'observer au quotidien, d'être à l'écoute de « OK, bien ça, j'ai voulu ça longtemps, mais là, ça ne marche plus. »
C'est ça, ça ne te correspond plus, ça ne te convient plus. Donc, c'est ça, tu sais, la vie, c'est un perpétuel ajustement parce qu'on change. Puis en effet, des fois, il y a des rêves qu'on se disait « Oh oui, c'est ça que je voulais. » Puis finalement, des années plus tard, tu fais « Ah, peut-être plus tant que ça. » Donc, il faut juste s'ajuster et s'écouter. En effet, tu as bien fait.
Exactement. Donc là, c'est un contexte, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais j'ai rencontré quelqu'un, puis bon. Fait que je suis restée au Québec, mais dans les dernières années que j'étais, je disais, les deux dernières années que j'étais dans une vie partagée, là, j'ai commencé à ramener le design dans ma vie. Je troquais de l'hébergement contre je vais réaménager un peu ton espace. Pendant que j'habite ici, je peinturais des murs, je remettais ça propre, je réorganisais un peu les trucs pour que ce soit mieux, plus facilement louable après. Okay. Je faisais du troc Airbnb en aménagement. Fait que, tu sais, le design, il revenait un peu, là.
Okay.
Ça plaçait tranquillement. Le studio de yoga où je travaillais aussi avait une nouvelle construction. Fait que j'étais un peu la référence, si on veut, de l'aménagement. J'étais consultée beaucoup pour les idées. Donc voilà, le design était de retour finalement dans ma vie. Puis là, je sentais que, OK, là, ça me nourrissait. Là. Ça venait un peu boucler la boucle.
Oui, par rapport à tes études puis tout ton parcours et tout, là, que ça ressurgit en fait dans ta vie. Là. Ah, c'est ça.
C'est ça, ça reprenait place puis ça me faisait du bien. Tu sais, c'est quand même pas pour rien que j'avais passé 6 ans de ma vie à étudier le design.
Ben non, tu avais un intérêt pour ça.
mais là, comment, tu sais, je voulais pas faire du design intérieur, je voulais pas, c'était pas ça, puis je trouvais pas qu'est-ce que je voulais, puis celle, la propriétaire du studio où je travaillais beaucoup dans l'aménagement, me disait, tu sais, tu pourrais offrir tes services, mais là, je trouvais pas la façon, je trouvais pas
du comment tout. Comment le faire?
Ouais. Mais là, j'ai commencé à regarder des formations, j'ai dit, c'est-tu du home staging? Pas tout à fait. Boum! Je tombe sur la formation au centre de formation Maurice Barbeau qui offre un démarrage d'entreprise avec une thématique organisation des espaces. Et là, j'ai dit, c'est un métier qui existe pour vrai!
Oui, oui, c'est ça. Le truc, c'est que personne ne sait que ce qu'on fait, c'est vraiment un métier, que c'est pas juste une bulle qu'on a eue puis qu'on s'est dit, on se part là-dedans. C'est vraiment un métier, en effet. Puis c'est le fun, en effet, tu parles du centre Maurice Barbeau. Ça fait pas longtemps, je pense, ça fait juste un an et demi là, qu'ils proposent la formation.
On était la quatrième cohorte. Nous,
quatrième, OK.
En juillet. Fait que, ouais, c'est ça fait à peine 2 ans. Là.
Ouais, ouais. Super. Donc, c'est comme ça, dans le fond, que tu as découvert que tu pouvais allier, en fait, ta vision de la simplicité de la vie, justement, plus facile, plus simple. Sans trop d'objets tout, et quand même ta passion pour le design, l'architecture et tout ça. Donc, c'est super.
Oui, puis en fait, j'avais même vécu, tu sais, sans le savoir, j'avais offert mes services quand mon chum que j'avais rencontré, il a vendu sa maison. Moi, je l'ai aidé à désencombrer parce que là, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis finalement, on a eu l'opportunité de s'en aller dans une mini-maison en location. Que ça a été moi, j'avais déjà plus rien.
OK, oui, c'est ça.
C'était facile, mais tu sais, lui, il avait une maison pleine. Fait que je l'ai vraiment dans le processus, puis que c'était mon premier accompagnement avec quelqu'un, puis je voyais les bienfaits, je voyais que ça lui faisait du bien, je voyais qu'après ça, il en parlait autour de lui pour dire, hey, mais ça t'est pas utile, peut-être que t'en as pas besoin. Je voyais que ça faisait boule de neige. Fait que là, c'est là où j'ai dit, OK, ben oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je l'ai déjà fait avec une personne. Ça s'est super bien passé. Fait que pourquoi pas? Puis, fait qu'il y avait, tu sais, c'est ça, il y a plein d'éléments. Puis, un autre élément, maintenant, je dirais le vrai élément déclencheur. Fait que oui, il y avait le centre de formation quand j'ai découvert que ce métier-là existait. Mais en novembre 2020, qu'on était en pleine pandémie, en plein reconfinement, la propriétaire du studio de yoga lance un peu une idée de dire « Hey, là, c'est novembre, c'est pas facile, novembre, on pourrait essayer d'offrir quelque chose à nos élèves là, juste pour remonter le moral. » Puis « OK, mais bon, moi, le yoga, je voulais me sortir du yoga un petit peu. » Je me disais que j'avais quelque chose à offrir. Je me disais « Comment je pourrais participer à ça? Faisons de novembre le mois de la santé, tu sais, la santé mentale. »
Oui.
Fait que là, je cherchais, puis pendant que j'enseigne un cours de yoga, j'aborde le sujet philosophique là, de yoga qui s'appelle Saocha, qui est comme un des principes de vie, une des lignes directrices qui nous enseigne à adopter au niveau de notre hygiène de vie. Donc, autant de nettoyer notre corps, de tu sais, d'avoir des bonnes habitudes de vie au niveau de propreté, si on veut.
Oui,
oui. Et moi, je fais le lien avec mon environnement et pour moi, ça a été « Ah, ben oui, j'apprends avec le yoga à faire de l'espace dans mon corps, à faire de l'espace dans ma tête. » Puis là, j'ai réalisé à quel point de faire de l'espace dans son environnement, ça faisait de l'espace dans notre tête.
Ben oui, c'est tellement lié, en effet. Puis souvent, on le néglige. Puis c'est ça, je trouve ça super beau que toi, tu l'aies vu par le yoga parce que tu as commencé, dans le fond... Puis, tu sais, c'est souvent ça, on dit un esprit sain dans un corps sain. Puis moi, j'allonge toujours par dans un environnement sain parce que si ton environnement dans lequel tu vis ne correspond pas à ça non plus, bien, comment tu veux faire le vide dans ta tête? Donc, c'est vraiment très lié, en effet. Là. Puis c'est ça, c'est de faire de cet espace-là, de le créer, en fait, dans notre tête, dans notre corps, qu'on ait une bonne hygiène de vie aussi au niveau de l'alimentation, peu importe, mais et autour de notre environnement parce que c'est là où on vit. Puis ça a un gros, gros impact sur notre santé mentale et on le néglige vraiment très souvent.
Oui, puis on s'en aperçoit pas, tu sais, c'est dans notre... On dirait que tant qu'on n'a pas goûté à ce que c'était cet espace-là, je pense qu'on peut difficilement comprendre ce que c'est, tu sais, puis faire de la place avec le yoga dans la tête, c'est aussi se connecter à qui on est vraiment, puis de se connecter à « OK, ça m'appartient pas dans la vie, cette croyance-là, je la mets de côté, ça, moi, c'est le yoga qui m'a beaucoup apporté ça. »
Ouais.
Puis là, si je fais le parallèle avec l'environnement, bien, ça, c'est un cadeau que j'ai reçu, mais ça ne me correspond plus aujourd'hui. Ça ne m'appartient pas, finalement. Fait que je peux le sortir de ma vie, puis ça ne va pas rien changer. Ça ne va pas blesser. Moi, ça va juste faire en sorte que je vais me sentir mieux, je vais être plus connectée à qui je suis vraiment aujourd'hui.
Exactement. Puis je trouve que c'est intéressant, encore une fois, ce que tu dis, parce que c'est vraiment de se ramener à l'être. Le yoga t'a amené ça, là, de se connecter à soi, à qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Puis le minimalisme, c'est ça que ça ramène aussi, c'est qui on veut être, qu'est-ce qui est superflu dans notre vie, qu'est-ce qui nous détourne, qu'est-ce qui nous enlève en fait de l'énergie ou du temps sur ce qui est vraiment important puis qui nous fait du bien. Donc, c'est vraiment dans la même philosophie, dans la même ligne en fait de pensée.
Oui, tout à fait. Fait que, longue histoire courte, là, c'est vraiment le design, le yoga, que là, oups, ça s'est complètement mélangé, puis c'est ça, là, c'est un autre univers de l'organisation, mais...
Oui.
L'organisation, oui, mais je parle souvent plus de désencombrement que d'organisation, tu sais, c'est pas juste de s'organiser dans sa tête, c'est de faire de la place pour s'organiser facilement aussi. C'est la simplicité, finalement. Oui. Puis, tu sais, simplicité, souvent, on va penser à simplicité volontaire, mais c'est pas... Tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, on parle de simplicité, mais simplicité, ça veut pas dire être hippie ou...
C'est vrai. C'est vraiment le truc drôle parce que c'est souvent quand on parle de minimalisme ou de simplicité volontaire, soit on pense austérité, parce que souvent la simplicité volontaire, elle a été appliquée, mais elle n'était pas si volontaire que ça. C'est parce qu'on n'avait pas d'argent qu'on se disait, ben, crime, on fait avec peu, puis on va faire comme ça. Donc, elle a souvent été associée avec pauvreté. Puis, ou sinon, justement, c'est tout le temps, mais c'est les hippies qui vivent de même, puis tu sais, tu sens le patchouli, puis tu te laves pas, puis tu as des dreadlocks, puis tu vis dans le bois, mais c'est pas ça du tout. On peut vivre vraiment un mode de vie minimaliste simple, tout en vivant dans la société actuelle, là. Mais c'est simplement de faire ses propres choix, puis de décider qu'est-ce qu'on veut dans notre vie ou non.
Exactement.
Mm-hmm. Puis là, toi, comme tu as juste dit une petite affaire, mais tu vis dans le fond dans une petite mini-maison, comme j'ai compris.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une maison qui a intérieur. Les mesures intérieures, ça a 13 pieds par 19 pieds. Donc, okay. C'est tout petit. Puis on est trois.
OK.
Mon job, il y a une petite fille de 4 ans. Donc, il fallait vraiment penser l'espace. Cet espace-là, il n'était pas nécessairement désigné pour une mini-maison. Mais on a proposé, nous, de l'aménager pour être capable de vivre les trois à l'intérieur. Fait que c'est sûr que la designer en moi, celle qui veut résoudre des problèmes, trouver des solutions. Puis optimiser, là, je suis servie parce que c'est ça, il fallait, je pense, à comment on allait dormir trois dans cet espace-là. Fait que j'ai vraiment eu l'occasion de créer des choses, puis de vraiment, comme tu disais, optimiser chaque raccoin et calculer. Puis c'est sûr que ça demande une discipline à trois, là. Ça demande des bonnes habitudes, ça demande de la discipline, mais c'est un beau cadeau. En tout cas, je pense que la petite fille qui habite avec nous, elle est là la moitié du temps. Fait qu'elle vit, c'est intéressant parce qu'elle vit la moitié du temps dans une mini-maison. Et puis là, ben, nous, on lui apprend, ou en tout cas, elle vit l'expérience de ce que c'est que de vivre des expériences. T'sais. Nous, on n'a pas 10 000 jeux. Là. Les jeux qu'on a, ils sont dehors. Nous, on a la chance d'habiter avec une forêt, une rivière. Donc, nous, on a appris à la petite à jouer avec des roches puis des bâtons, puis elle a le plaisir là-dedans. T'sais.
Oui. Puis c'est le fun parce que, tu sais, on dirait que c'est comme de nous ramener aussi à ce que nous, on a vécu dans nos enfances. T'sais, on a, je pense, à peu près le même âge. Puis c'est ça, c'est vraiment de se dire, voyons, tu sais, on avait tellement peu quand on était enfant, puis on jouait pendant des heures, justement, avec un bâton, à grimper dans un arbre, à peu importe. Puis que maintenant, justement, les enfants sont surstimulés, puis, tu sais, la plupart du temps, justement, ils s'emmerdent, ils viennent nous dire tout le temps, je sais pas quoi faire, alors qu'ils ont des armoires remplies de jouets. Je trouve que c'est intéressant que cette fille-là puisse vivre les deux choses, qu'elle puisse voir, en fait, les différences, puis qu'elle pourra, comme, choisir elle-même aussi qu'est-ce qu'elle veut, puis comment elle veut vivre après, là. Parce que, comme tu le disais au début aussi, enfin, tantôt, c'est vraiment le fait de le vivre. Ton chum, il l'a vécu, de commencer à désencombrer. On ne comprend pas le concept au début. Au début, on voit plus cette peur du manque, puis on m'enlève des choses. Puis plus on le fait, plus on se rend compte que plus on enlève, plus on s'enrichit. Oui. Plus, en fait, on a d'espace, plus on a de temps, plus on a d'énergie. Puis plus on a d'abondance dans notre vie, mais de choses qui sont tellement plus importantes, comme tu le dis, d'expérience, de vivre des moments avec les gens, de faire des activités ou des choses comme ça, qui sont beaucoup plus enrichissantes, en fait, que les objets qu'on accumule sur nos armoires ou dans nos vitrines.
Oui, puis c'est vraiment intéressant de vivre ça avec un enfant aussi. C'est rare que je parle de ce sujet-là, mais de le vivre avec un enfant, de lui apprendre, parce que moi, on n'a pas de place chez nous pour garder des choses qui ne sont pas utilisées ou... Fait que la phrase, elle vient souvent, tu sais, si ce vêtement-là, il ne fait plus, on va trouver une personne pour le donner. Puis je vois son apprentissage du détachement.
Oui.
Puis je vois comment, tu sais, moi, mon travail de détachement par rapport aux objets, je l'ai fait sur une bonne période. J'ai plus vraiment d'attachement aux objets. Non. C'est plus ça qui me rend le bonheur, qui me sécurise. Mais dans le cas d'un enfant, son apprentissage, il commence dès maintenant. T'sais. Fait que je trouve ça super intéressant de voir l'évolution parce qu'au début, c'était vraiment très difficile. Puis là, de plus en plus, par elle-même, ah ben ça, c'est trop petit, on va le donner à un ami. Puis ça, il n'y a plus de place. Là. Je pense qu'on va faire, si je rentre un nouveau jouet, ben je vais accepter que celui-là, il puisse partir un nouvel ami.
C'est vraiment le fun. Donc, oui, parce que les enfants, au début aussi, c'est très dur. Ils s'identifient aussi par leurs objets. C'est à moi, tu sais, quand les frères et sœurs se bataillent, c'est mon jouet, c'est pas le tien. Non, non. Donc, il y a vraiment aussi une identification, en fait, par rapport à ce qui leur appartient. Mais qu'elle arrive justement tranquillement à faire ce détachement puis se rend compte que c'est pas important, mais ça va tellement être un beau bagage pour plus tard. Parce que, comme tu dis, la plupart des adultes, on dirait que dans nos vies, on apprend tout le temps à accumuler, à avoir du stock toute une partie de notre vie. Puis tout d'un coup, on se rend à un moment de notre vie où on se rend compte que tout ça est inutile, puis on passe le reste de notre vie à en fait se détacher puis se défaire de tout ce qu'on a acquis pendant un bout, même dans les ancrages, dans justement les peurs, les tout ça, tu sais, tout. Puis que finalement, on se rend compte que si on l'avait su plus tôt, on n'aurait peut-être pas fait les choses de la même manière. Donc je trouve ça le fun que tu puisses lui montrer ça, lui enseigner, puis qu'elle puisse le vivre déjà en fait, et qu'elle le comprenne vraiment par l'expérience.
Oui, ça va être intéressant de voir au fil des années. Là, elle est encore petite, elle a 4 ans. Mais en tout cas, ça va être un beau processus familial, finalement. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, l'espèce de peur du manque qui, moi, des fois, j'associe ça un peu à nos ancêtres qui n'avaient pas cette chance-là, je pense, de vivre autant dans l'abondance puis dans la facilité. Ouais. Je pense qu'on est chargé de cette peur de manquer.
Oui, oui, vraiment.
En plus, détacher des okazu, là, il ne reste plus grand-chose après, puis ça fait du bien parce qu'on n'a plus de pression. Je parlais de pression sociale tantôt, mais les objets qui sont là, c'est une certaine pression aussi. Il faut les entretenir, il faut les réparer, il faut les changer. Puis...
Oui, il faut les déplacer. Faut... C'est ça, c'est vraiment, c'est toute une charge mentale, en fait. Ils sont dans notre esprit tout le temps aussi. Donc oui, en effet, il y a une lourdeur, il y a un poids à la gestion de tous ces objets-là. Et c'est pire quand, en effet, on ne les utilise pas et qu'ils ne nous apportent rien. Si c'est un objet qui t'apporte de quoi et qui a une plus-value dans ta vie, bien OK, il a une raison d'être dans ta vie. Mais si, au contraire, il fait juste de te tirer de l'énergie, de tirer du temps et tout, puis que ça n'apporte rien de plus à ta vie, bien, c'est sûr que c'est un poids qu'il faudrait éliminer, mais on a cette peur de justement au cas où qu'on en aurait besoin ou une chose comme ça qui est encore très, très ancrée et dont il faut se défaire tranquillement.
Oui, c'est sûr que de passer d'une grande maison à une plus petite maison, ça aide à faire ce processus-là. Mais tu sais, c'est pas nécessaire. On parle de minimalisme, mais on n'a pas besoin d'habiter dans une mini-maison pour faire ce processus-là. Ça aide dans le sens où on a une certaine pression d'espace.
Oui.
Mais, puis, tu sais, minimalisme, tu le disais, c'est pas de vivre avec rien, c'est juste de choisir qu'est-ce qui nous entoure, puis d'être conscient, puis de choisir à un certain moment avec conscience, puis de passer par le processus de tout jeter, mais jeter ou donner, ou se départir de ce qu'on n'a plus besoin. Moi, ça m'a aidé encore plus à prendre conscience de mes habitudes d'achat.
Oui.
J'ai plus envie d'aller magasiner. J'ai plus. Non. Ou des fois, je vais magasiner dans une friperie. Puis là, je me fais plaisir. J'achète deux camisoles. Évidemment, quand j'arrive chez moi, j'enlève deux camisoles. Mais j'ai acheté deux camisoles. Ça m'a coûté 2 $. Ça n'a pas été des vêtements neufs. Mm-hmm. Mon besoin de nouveauté a été rassasié. Ben oui. Fait que c'est ça, tu sais, il y a différents aspects de se désencombrer quand on observe tout ce qu'on jette, tout ce qu'on donne. Ouais. Après, on n'a plus envie de laisser rentrer ces choses-là inutiles. On n'a plus envie de ramener de la lourdeur.
Oui. Puis c'est le fun que tu le vois aussi, puis tu l'as vécu aussi en faisant ce processus-là, parce que souvent, je le dis, quand on arrive chez les clients, on est comme au bout de la roue, c'est où ils sont sursaturés, ils sont plus capables, ils sont écœurés de leur maison, ils ne savent plus comment reprendre le dessus parce qu'il y a de l'encombrement partout. Donc là, on les aide justement à faire sortir tout ce surplus. Puis dans le processus, ils comprennent, ils réalisent à quel point ils ont perdu de l'argent aussi là, à acheter des affaires qui leur sont totalement inutiles puis qui ont été un fardeau pendant des années. Puis que finalement, justement, on arrive à voir en fait au départ de la roue, à éviter de recommencer ça. Donc, parce qu'en effet, le début de la roue, c'est la consommation et la surconsommation qui fait qu'on l'amène là. Puis, tu sais, comme on le disait, là, la maison, la grosse maison, le rêve américain qui est un peu cette espèce de voisin gonflable aussi, puis de cette pression sociale qui nous dit que si tu n'as pas ça, tu ne seras pas heureux. Donc, c'est vraiment de tout casser, en fait, cette espèce de boucle, de ce cercle vicieux dans lequel on est pris sans même vraiment le savoir, parce que c'est ce qui nous entoure depuis toujours, puis que on est pris là-dedans, dans le fond. Donc là, c'est juste de prendre cette espèce de pas de recul puis de réfléchir consciemment, en effet, à ce qu'on veut avoir dans nos vies.
Oui, tout à fait.
Ah, mais c'est super. Écoute, Élise, je suis super contente d'avoir pu te parler aujourd'hui. Donc, on va mettre dans le podcast, vous allez avoir les coordonnées d'Élise. Toi, tu es à Victoriaville, hein, si je ne me trompe
pas. En fait, oui, petite correction, je suis pas en Estrie, c'est dans centre du Québec, mais il n'y a pas de problème. Centre du Québec, je suis à Victoriaville.
Oui, Victoriaville. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez besoin des services de désencombrement et d'organisation à Victoriaville, donc Élise Vigneault va être disponible pour vous. On va mettre les coordonnées, en fait, dans le podcast aussi pour qu'elle puisse vous aussi la joindre si vous êtes dans cette région-là. Je suis vraiment très contente d'avoir pu parler avec toi aujourd'hui, de voir que justement, il y a d'autres personnes qui ont cette belle philosophie de vie puis que je pense qu'ensemble, si on le partage à plein de monde, on va pouvoir justement aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie parce que, tu sais, on parle de désencombrement, d'organisation de la maison, mais c'est vraiment, ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment cette qualité de vie, ce bien-être qu'on veut avoir chez nous. Puis je suis très heureuse de voir que tu as vraiment cette même perception puis cette même philosophie.
Merci de diffuser le message.
Oui.
Faire connaître cette simplicité-là qui existe, tu sais, puis qui fait peur, tu sais, qui fait peur quand on n'y a pas touché, mais de se faire accompagner dans ce processus-là, ça démystifie plein de choses, tu sais. Puis c'est important d'en parler, puis c'est important d'amener cette conscience-là à notre consommation aussi pour on veut faire toute notre part sur la planète, puis prendre soin de soi, bien, ça, c'est déjà un bon départ pour la suite des choses.
Exactement. Prendre soin de soi, c'est en même temps prendre soin de la planète, je pense souvent, là, quand on le fait les deux, parce qu'on est tellement intimement liés que finalement, on prend soin des deux en même temps. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup, Élise, encore. Je te souhaite plein de succès avec ton entreprise qui vient de démarrer en janvier. Donc, si jamais vous voulez contacter Élise, faites-le. Elle est vraiment super sympathique et tout. Et je suis sûre qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner également dans ce processus et dans ce changement de mode de vie.
Merci.
Merci. À la prochaine. Bye. Bye.
Chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisol est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisol vont rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Ouh!